Donc avec vous, j'aimerais méditer sur la question de la joie, qui est le thème de notre week-end, pour se préparer à Noël. On le sait bien, Noël est un mystère joyeux. Et puis, cette joie qui nous vient du Seigneur. Et j'ai pensé méditer avec vous le texte du pape François sur la joie de l'Évangile, son introduction à cette encyclique de la joie de l'Évangile. Il insiste souvent là-dessus et sur la question de la joie, et c'est intéressant que le Saint-Père, qui en fonction des époques a une insistance particulière sur une chose, sur une autre, nous rappelle l'importance de la joie. Peut-être parce que notre monde peut se laisser aller à une certaine tristesse. Peut-être parce que nous-mêmes, nous pouvons nous laisser aller à un certain découragement. Découragement de ce qui se passe en nous, on voit bien que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons plein de choses à travailler, de chemin rocailleux, comme disait Isaïe, de ravins qu'il faut encore combler, de creux et de bosses. Et on s'en rend compte, et je l'ai dit, à la vie de couple et la vie de famille, si vous ne vous êtes pas rendu compte de cela avant, eh bien, est un marqueur très fort, parce que c'est un miroir. Hein, donc l'autre est un miroir par rapport à nous. Mais peut-être aussi notre situation actuelle, qui est une situation complexe au plan international. On voit bien qu'il y a beaucoup de tensions, de raidissements, de la situation économique pour 2025 sera peut-être aussi compliquée. Voilà. On voit bien qu'il y a vraiment de l'angoisse qui naît, et peut-être un découragement, une certaine tristesse. Et c'est pour ça que le Saint-Père, il insiste là-dessus, sur la question de la joie. La question de la joie, parce que la joie, ce n'est pas simplement quelque chose de psychologique, c'est quelque chose d'abord de spirituel, la joie qui nous vient de Dieu. Alors je vous propose de lire et de commencer à lire, puis vous continuerez, parce que non, on ne va pas déborder le temps qui nous est imparti. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus, ceux qui se laissent sauver par lui, sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Je voudrais que ces deux premières phases, elles sont extraordinaires. Je trouve vraiment, ceux qui se laissent sauver par lui. Premièrement, la joie vient de l'expérience d'un salut. Vous le savez, le sacrement de mariage, les sacrements en général, et le sacrement de mariage en particulier, les sacrements sont les sacrements du salut. Et donc, moi qui suis assez impliqué dans les préparations au mariage, l'accompagnement des couples, je pose régulièrement la question aux couples de fiancés, de quoi avez-vous besoin d'être sauvés? De quoi avez-vous besoin d'être sauvés? La joie vient de ça. C'est intéressant ce que nous dit le Saint-Père, se laisser sauver par lui. Probablement prendre conscience qu'on a besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi? D'abord sauvé de nous-mêmes. Sauvé de l'orgueil, de l'égoïsme, sauvé de la volonté d'avoir raison, sauvé d'un certain isolement, individualisme, tout ça, on est dans la société, on est dans le monde, pas du monde, mais on est quand même contaminé par un certain esprit du monde qui a à voir avec cet individualisme, qui au fond, il parle de l'isolement, oui, le vide intérieur. Se laisser sauver par lui. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans cette retraite, c'est vraiment le préparer à Noël, c'est vraiment ça, c'est voir dans le Seigneur celui qui me sauve de tous mes péchés, ma tristesse, mon vide intérieur, mon isolement. Et donc peut-être de faire mémoire, peut-être que chacun, et je pense que vous serez envoyé en couple cet après-midi, etc., mais que vous puissiez reprendre conscience, mettre des mots là-dessus. De quoi avez-vous besoin d'être sauvé? De quoi notre couple a-t-il besoin d'être sauvé? Forcément, vous avez besoin d'être sauvé de quelque chose. Sinon, vous ne seriez pas là. Et donc, on a besoin d'être sauvé de tas de choses. Et de même, l'Eucharistie, comme sacrement, c'est un sacrement du salut, évidemment. Eh bien, dès qu'on va communier, on dit au Seigneur, sauve-nous de quelque chose. Viens, Seigneur, sauve-moi. Viens nous sauver. Et ce qui est intéressant aussi, c'est nous laisser sauver. Ceux qui se laissent sauver. Comme si c'était pas, comment dire, je sais pas comment dire, mais c'était pas forcément de notre fait, ce serait, on se laisse agir. Il y a une forme de lâcher prise. Dans le temps de l'Avent, dans cette préparation à Noël, il y a un lâcher prise. On se laisse sauver. On se remet dans les mains du Seigneur, on laisse le Seigneur agir dans notre vie. Et on est convaincu de ça, que la vie éternelle, c'est qu'on est agi par Dieu. On n'agit pas, on est très prompt à agir, oui. Mais se laisser agir par le Seigneur, se laisser sauver, on voit bien que c'est complexe. Et ça veut dire laisser au Seigneur la main, laisser au Seigneur l'initiative. Et c'est aussi une forme de Pâques. On peut dire c'est une forme de Pâques, une Pâques intérieure, une sorte d'exode intérieur. Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir la main, de diriger des choses, d'être sous la dimension de contrôle, et puis toute notre société va là-dessus, quoi. Ça va dans cette direction-là. Ça va vers le fait, le principe de précaution, le risque zéro, tout ça, voilà. On voit bien que de partout... Vous avez vu, on est dans un grand chantier, etc., avec l'aile de Lorraine, mais j'ai accompagné ce chantier pendant 3 ans, mais je vous assure que tout le monde verrouillait tout, pour, s'il y avait un problème, ça ne retombe pas sur lui. Ouverture du parapluie, H24. Je vous donne un exemple. Le peintre demande au menuisier, est-ce que tu me prêterais ton échafaudage roulant? Ah non. Ah non. L'échafaudage s'écroule. Un compagnon est blessé. Qui paye. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment... C'est pas chrétien, je veux dire. C'est pas que les gens font contre l'Évangile, mais... Ben non. Oui, le risque fait partie de la nature. La souffrance fait partie aussi... La limite fait partie de notre monde. Mais vous voyez, on voit bien que c'est... Il y a ce risque zéro, ce principe de précaution. Alors oui, bien sûr, on ne va pas faire un barbecue sur une bonbonne de gaz. Ça, on imagine bien. Mais il y a le bon sens, mais aussi faire confiance aux gens, aux vrais gens, voilà, on imagine. Mais bon, du coup, il faut relouer un échafaudage, que le peintre loue son échafaudage, du coup, il demande l'assurance du loueur, etc. C'est vraiment lourd, quoi. C'est vraiment lourd. C'est pas l'Évangile. Alors, j'entends que le cher menuisier vous dise, voilà, parce que il est dans une logique de protection, d'ouverture de parapluie à H24, bon voilà, bon. Mais est-ce que ça rend heureux? Est-ce que ça rend heureux? Non. Très clairement non. Et pour prendre l'exemple de chantier, parce que c'est une question concrète, voilà, nous avons assumé des risques comme communauté. Je vous donne un exemple. À un moment donné, donc on a refait, donc peut-être certains étaient venus, mais il y a plus de 3 ans, c'était l'aile de Lorraine, c'était ouvert aux 4 vents, il y avait 4 murs et 2 dalles de béton qui tenaient le mur pour éviter que ça s'effondre, etc. Bon, il n'y avait rien. Et puis, quand il s'est agi de refaire les dalles de béton, donc on a démonté celles qui existaient, etc., eh bien, au début, on avait validé le fait que ce soit bon, je rentre un peu dans les détails techniques, moi-même, j'y connais rien, mais bon, des équerres, c'est-à-dire qu'ils tiennent des équerres comme ça, qui sont fixés dans le mur, et la dalle repose. Et puis, finalement, le mur n'était pas assez fort. Il fallait mettre des IPN. Vous voyez ce que c'est des IPN? C'est-à-dire comment on peut dire ça? Des poutres en métal. Alors, le chantier avance tranquillement, celui qui s'occupe du métal avance ses poutres en métal, ravi. Ah, pardon, on ne vous a pas demandé de dépenser 150 000 euros de plus. On n'a jamais posé la question. Et donc, l'architecte, ces deux femmes qui assurent magnifiquement ce travail, écoutez... On a un problème là. On ne vous a pas posé la question, on a avancé. C'est ce qu'il fallait faire. Alors on aurait pu bloquer le chantier, mais un chantier bloqué ça coûte très cher, et dire 150 000 euros c'est quand même pas une paille. Donc voilà, donc bon, ben, on a accès. Donc la personne est venue, le directeur, président, directeur général est venu s'excuser, etc. C'est vrai qu'on nous-mêmes on a livré sans avoir la validation. Bon. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a eu. Il y a, il y a, il y a, C'est intéressant, c'est... Et du coup, vous savez ce qui a été dit? Et on parle d'une réalité professionnelle. Eh bien, une fois par mois, avec la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les architectes, et nous, nous allons faire un temps où est-ce que nous en sommes dans nos... Est-ce qu'il y a des choses à nous dire? Parce qu'en fait, on n'avait pas eu le temps de parler. Et du coup, on a mis ça en place une fois par mois. Et on se dit les choses, on dit des choses agréables, des choses pas agréables. Parce que, imaginez un chantier aussi long, on parle de 8 millions d'euros, c'est considérable. Ben voilà, il y a des. Comment les tensions, justement, c'est intéressant de. Comment est-ce que les tensions se gèrent? Parce qu'on aurait pu se redire, on était dans notre droit. On nous avait pas posé la question. On a été très, très, très à l'aise avec notre chéquier. Non, l'argent, c'est une réalité, mais ce n'est pas la seule réalité. Et ni la première, du reste. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, comment, dans ce monde, justement, le Saint-Père dit, voilà, se laisser, sont libérés, il y a une sorte de libération, justement, par le salut. De libération de ce contrôle, d'être dans le contrôle. On est libre. C'est une... Comment on peut dire ça? C'est une forme d'idolâtrie, le contrôle. Le risque zéro, tout ça, c'est une idolâtrie. Le principe de prix, c'est une idolâtrie. Ça n'existe pas, le risque zéro. Ah oui, bien sûr, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'accident, de chantier, on va tout mettre en œuvre, bien sûr, mais bon, parfois, il y a des bugs, non pas volontaires, on imagine bien, mais... Vous voyez, donc, je me dis, tiens, c'est intéressant de dire que le Saint-Père commence justement à se laisser sauver par lui, être libéré. Il y a quelque chose d'être libéré. Vous savez, dans les idolâtries, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. C'est toujours plus, toujours plus. C'est le hamster dans la roue. L'idolâtrie, vous connaissez les trois grandes idolâtries. L'idolâtrie qu'on appelle aussi concupiscence, toute puissance. Trois formes de toute puissance. Toute puissance de la chair, toute puissance des richesses, toute puissance de l'esprit. Donner à ses désirs l'infini de l'intelligence. C'est ça l'idolâtrie. Il n'y a pas de repos. 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, vous entendez ça comme pub. Moi je dis, mais au secours, parce qu'il y a des vrais gens derrière, je veux dire, et quand est-ce qu'on se repose? Alors nous les frères, on travaille le dimanche, alors du coup bon, c'est pas pareil, mais bon, mais je me dis, vous voyez c'est vraiment le Seigneur a une autre manière de voir les choses, et par la bouche du Saint-Père, je vous dis, laissez-vous sauver. Par lui, laissez-vous libérer de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Alors, bien sûr, nous sommes dans ce monde et non pas du monde. Ce monde-là, il est ce qu'il est. Et puis, mais je crois que c'est comme à notre place dans ce monde, à notre place, on peut aussi se poser la question, comment est-ce qu'on peut être témoin? Plus que vous ne le croyez, votre parole est entendue, plus que vous ne le croyez. Précisément parce que beaucoup vivent dans la solitude, dans le vide intérieur, la tristesse, l'isolement. Mais ils ne savent pas vers où regarder pour un salut, pour une libération. Oui, je pense que c'est... Et préparer Noël, c'est ça, c'est vivre cette joie d'un salut qui fait que cette joie de la perspective d'un salut, un peu comme la perspective d'une naissance, vous savez bien, vous qui êtes parents, la perspective d'une naissance, la perspective d'une adoption pour certains d'entre vous, etc. Rien que la perspective nous rend joyeux. Rien que la perspective d'être avec le Seigneur pour la vie éternelle nous donne cette joie. Alors oui, bien sûr, on garde une forme de béance ouverte, on garde Oui, il y a une incomplétude dans notre humanité, dans votre couple, bien sûr, il y a des tas de choses qui sont à travailler, évidemment. Je veux dire, l'amour propre meurt 15 minutes après nous. Ça veut dire quoi? Jusqu'au fond, vous aurez des choses à travailler. Mais ne pas se décourager. Ça, c'est autre chose. Ne pas se décourager. Et c'est vraiment une tentation du démon, appelons-le par son nom, que le découragement. Découragement de soi-même. On voit bien qu'on a des creux et des bosses et qu'on n'arrive pas vraiment à sortir de nos défauts. Et de fait, dès qu'on va se confesser, comme un certain nombre d'entre vous vous êtes confessés hier, grosso modo, on confesse les mêmes choses de fois en fois. On dirait, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Bon, mon père, j'ai tué père et mère. Non, on ne vous demande pas ça. Bon. De fait, on se lave les mains plusieurs fois par jour. On prend sa douche tous les jours, on se lave les dents plusieurs fois par jour. Dire, voilà, la saleté du corps, mais aussi de l'âme, c'est pas étonnant qu'elle se répète. Donc c'est intéressant de dire, tiens, où est-ce qu'on en est parfois de ce découragement qu'on laisse insidieusement pointer dans notre vie, dans votre couple, dans votre famille. Il faut faire attention à ça. Parce que c'est une vraie tentation. Et pensant que ailleurs l'herbe est plus verte. Hein. Ça, c'est les drames des infidélités, etc. Donc, voilà, je pense que c'est important de reprendre conscience. Que le Seigneur nous donne une vraie, véritable espérance. Que l'Évangile nous donne une espérance. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Alors, pourquoi on peut dire ça? Parce que c'est vrai que le Seigneur nous apporte quelque chose de neuf. C'est intéressant, le Seigneur nous apporte quelque chose de neuf. La joie renaît toujours. Il y a une nouveauté. Et singulièrement, dans la personne de la Vierge Marie, j'aimerais aussi qu'aujourd'hui on fasse mémoire, on est le 8 décembre, alors la liturgie fait qu'on n'a pas fêté l'Immaculée Conception parce que c'est le dimanche de l'Avent qui a priorité, entre guillemets, sur l'Immaculée Conception, mais évidemment le temps de l'Avent est un temps marial. Évidemment. Et c'est un temps, parce que c'est un temps où on fait mémoire avec l'Immaculée Conception de la manière dont Dieu a souhaité nous sauver. C'est justement, dans cette humanité blessée, il y a une nouveauté. Il y a quelque chose de vraiment autre. Il y a une nouveauté. Marie. Marie, c'est une nouveauté. Et c'est intéressant de voir quand Dieu sauve, il prend soin des débuts. Quand Dieu sauve, il prend soin des débuts. Prendre soin des débuts de la vie de couple, prendre soin des débuts d'une vie. On voit bien qu'un nourrisson a beaucoup besoin de soins de personnes qui l'entourent, etc. Prendre soin des débuts d'une carrière. Ou d'un nouveau poste. Dieu sauve en prenant soin des débuts, en prenant soin des commencements. Donc c'est intéressant de dire, tiens, au fond, les commencements que nous avons à vivre, ça peut être plein de choses dans une vie de famille, peut-être déménagement, ça peut être un changement de poste, ça peut être l'accueil d'une naissance, voilà, la perspective. Voilà. Comment est-ce qu'on prend soin de ça? Et puis, sans parler de votre couple, vous êtes encore dans les commencements. Parce que, évidemment, avec l'allongement de la durée de la vie, vous en prenez au moins pour 50 ans. Non, mais bon, vous n'avez pas dit ça, non? Donc, voilà. Donc, mais vous êtes tellement dans l'action de grâce l'un avec l'autre. Mais c'est important, vous êtes encore dans les débuts. Je crois que beaucoup d'entre vous ont moins de 10 ans de mariage, par exemple. C'est vraiment les débuts, quoi. Les bébés couples, hein. Comment vous prenez soin de vous? Et en venant ici, et je vous en félicite vraiment, c'est prendre soin de vous. Et en prenant soin de vous, évidemment, vous prenez soin de vos enfants. Évidemment. Mais ne vous faites pas passer après tout le monde. Ce ne serait pas rendre service aux autres. Donnez-vous la priorité. De week-end en amoureux, de soirée uniquement tous les deux. Tout ça, ça aide. À redire la joie que vous avez d'être ensemble. Donc Jésus-Christ apporte la joie qui naît et renaît. Il y a une renaissance. Il y a une, qui dit renaissance dit aussi fécondité. Prendre soin de vous est ordonné à une fécondité, à porter du fruit. Et vous le savez bien que la fécondité, ce n'est pas seulement les enfants. La fécondité de votre couple, c'est tout le bien que vous pouvez faire autour de vous. Et posez-vous la question, quel est le charisme de votre couple? Quel est le charisme de votre couple? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a été donné comme don? Comme talent? Il vous a été donné des choses, évidemment. Juste faire mémoire de ça. Et quand je prépare au mariage, j'aime bien dire aux fiancés, bien, les lectures que vous allez choisir pour le jour de votre noce, eh bien, qu'ils disent quelque chose du charisme qui vous habite. De façon à les lire 5, 10, 20 ans après, puis voilà, la parole de Dieu, c'est une parole vivante, elle puisse à nouveau féconder, vous rappeler, faire mémoire du don de Dieu, du don qu'est l'autre. Parce que c'est sûr, il peut y avoir une forme d'usure, ça je ne nie pas. Parce que face au creux et au boss qui nous habitent et qui habitent le conjoint, évidemment, on peut avoir une sorte de découragement. Ou nos familles, et je ne parle pas des belles familles. Elles sont belles familles, c'est intéressant. Elles sont belles. Voilà, je trouve ça intéressant de dire, tiens, le Seigneur nous fait renaître la joie, je sais, aussi avec la question de l'émerveillement. Où est-ce que vous... Noël, c'est vraiment un émerveillement. Alors, où est-ce que vous en êtes justement de cette capacité d'émerveillement et question subsidiaire, où est-ce que vous en êtes de cette question d'action de grâce? Vous voyez, c'est l'émerveillement relié à sa source. De la gratitude. Comme couple, comme parent, vous êtes vraiment dans une logique de transmission. Transmission d'une gratitude. À haute voix. C'est pour ça, moi, je vous encourage vraiment de... Parce que vous êtes dans une logique de transmission, ça vous fait sortir de vous-même. Vous êtes attendu, évidemment, comme parent, et votre parole, et vous êtes attendu comment? Par votre parole. Votre parole dit quelque chose de vous. Du coup, n'hésitez pas à parler, à prendre l'initiative. Il y a une forme de pudeur, je trouve, que j'entends, mais au niveau spirituel, souvent on n'ose pas trop dire, ça fait partie un peu de notre ADN, d'être disciple de Jésus, on a les fêtes religieuses, mais il n'y a pas forcément de paroles qui sont dites. Et pour moi, c'est problématique. Des paroles pour dire votre foi. Alors que votre parole est attendue, évidemment, par vos enfants. Il y a une pédagogie dans la parole. Et peut-être la difficulté de la transmission de la foi chrétienne de nos jours, c'est entre autres un déficit de parole. Et j'invite singulièrement ces messieurs à être les leaders spirituels de leur couple et de leur famille. Alors, on risque d'être old school peut-être, mais je trouve ça important que l'homme aussi sorte du bois et dise quelque chose, dise une parole. Pour moi, la parole de l'homme n'est pas la parole de la femme. Bon, les deux ont quelque chose à dire, mais c'est vrai, on parle plus des dames catéchistes que des messieurs catéchistes. Il y a d'autres religions, c'est pas comme ça. Je pense au judaïsme, par exemple. Le judaïsme, vous savez, pour célébrer un Shabbat à la synagogue, il faut être au moins 10 hommes. Quelque part, donne au plan spirituel le pousse à sortir de sa zone de confort, de sortir de sa caverne, le pousse à une parole. Alors oui, cette joie-là, elle vient justement de cette capacité de don, de cette capacité de sortir de soi-même, un exode de soi-même. Parce que la parole, évidemment, on ne la maîtrise pas. La parole, on ne la maîtrise pas. Justement, elle est dans le lâcher-prise par définition. Une fois c'est dit, elle ne vous appartient plus. Et Dieu est parole. Et le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'est fait chair. Dieu a choisi le mode de la parole pour venir jusqu'à nous. C'est-à-dire, a choisi le mode de la désappropriation. Du lâcher-prise. À renoncer au contrôle. Parce que face à la parole de Dieu, évidemment, l'homme et la femme sont face à une liberté, voilà. Donc, et Dieu accueille cette liberté de l'homme et de la femme. C'est intéressant de dire, voilà, il a choisi ce mode-là pour se révéler. Au commencement est la parole. Et Dieu dit. En termes de vie de foi, ne soyez pas avares de paroles. Dites en quoi vous croyez et pourquoi vous croyez. Du coup, ça vous fera puiser aussi en vous-même. Ça vous interpellera. Parce que vous êtes dans une logique de transmission. N'oublions pas que la famille ou le mariage en général, c'est la transmission des gènes, la transmission du patrimoine, la transmission de la foi. Être dans une logique de transmission, c'est par définition sortir d'un lâcher prise et rentrer dans une confiance. Dieu, en se faisant parole, rentre dans une confiance. Et au numéro 2, le Saint-Père dit « Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix du Seigneur, on ne jouit plus de sa douce joie, de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. » C'est intéressant ce que dit le Saint-Père. Voilà, c'est, on voit bien qu'il y a une forme de vouloir combler. Alors qu'il faut laisser la béance ouverte, il faut laisser quelque chose d'incomplet ouvert. Il faut laisser ça ouvert, mais on veut combler. Et on voit bien qu'autour de Noël, il y a beaucoup de dimensions de consommation, etc. Bon, ça, c'est pas très nouveau. Mais voilà, c'est cette dimension de vouloir combler. Alors que le Saint-Père, il dit, voilà, c'est quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, quand il y a une sorte de recroquevillement sur nous-mêmes. Il n'y a plus de place pour les autres, et singulièrement pour les pauvres. On n'écoute plus la voix du Seigneur. J'avais été marqué par cet homme, voilà, qui était très engagé dans sa vie de foi, dont la famille a été vraiment un pilier de la paroisse. Les enfants au scout, et puis comme servant d'hôtel, etc. Et puis avait eu, pendant X mois, une double vie. Et il me dit la chose suivante. Il me dit, j'ai perdu l'intimité avec le Seigneur. Oui, nous allions à la messe ce dimanche. Oui, nous prions en famille. Mais personnellement, j'ai perdu le contact avec le Seigneur. Et je me suis dit, tiens, j'ai médité là-dessus. Je me suis dit, tiens, il y a une forme d'impunité. Quand on perd le contact avec le Seigneur, personnel, il y a une forme d'impunité. Tout est possible. On n'accueille plus la limite parce qu'on n'a plus non plus de grandes choses, de grands désirs comme la présence de Dieu vers lesquels aller. Soyez attentifs à cette dimension de prière personnelle. C'est sûr que c'est compliqué. Pour moi aussi, c'est compliqué. Et heureusement que j'ai la communauté qui, avec ses horaires, me rappelle religieusement les temps de rendez-vous. Vous voyez ? Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Et ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas nécessaire. Ce temps de prière personnelle, de contact personnel avec le Seigneur. Alors, posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes là-dessus? Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de prières. Il y a la prière en famille, bon, c'est un peu la pagaille, etc., qui éteint la bougie, etc. Bon, un peu tout un bins formidable. Bon. Ensuite, la prière, mais souvent, le temps de préparation à Noël, c'est sympa, parce qu'il y a plein de choses. La préparation à Noël, c'est vraiment un temps pour les enfants. Quoi. Je ne sais pas comment vous vivez ça dans votre famille, moi. Bon, il y a la crèche, j'imagine. Déjà, vous avez mis la crèche, les moutons. Et chacun a son mouton. Voilà, chacun a son mouton, voilà. Il y en a pas que les moutons, c'est la c'est bien. Moi, je me rappelle de ça dans mon enfance, je me rappelle très bien, on avait nos moutons, etc. Donc, et puis le calendrier de l'Avent. C'était le calendrier de l'Avent, du coup, chacun. Alors, bon, il ne faut pas que tout le monde qu'ils ouvrent toutes les fenêtres en même temps. Bon, bref, toujours est-il que. Je trouve que c'est vraiment un temps pour les enfants, le temps de l'Avent. C'est un temps vraiment. Autant le temps du carême et de Pâques, un temps plus tendu, j'allais dire. Mais là, il y a beaucoup de choses faites pour les enfants. beaucoup de choses où les familles sont impliquées. C'est un temps chaud, c'est un temps de chaleur humaine. Et c'est pour ça que la fête de Noël n'est peut-être pas facile partout. On voit parfois c'est compliqué. Parce que c'est un temps où sont revisitées toutes les relations familiales. Avec leurs difficultés, leur manque de pardon. Avec, bon, ça ne vous concerne pas, mais avec les séparations, avec les... On voit bien que c'est compliqué, quoi. Le manque de dialogue, de communication. Des gens qui seront à la fête et ceux qui ne seront pas à la fête. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à la fête? Ben justement, je trouve que c'est intéressant de voir que ce temps de l'Avent, c'est un temps où on revisite nos relations. Et posez-vous la question, est-ce qu'il y a des relations... peut-être où il y a des bugs, il y a des difficultés, il y a des... J'exclus pas non plus les relations professionnelles. Les relations professionnelles. Parce qu'il y a beaucoup de bien qui se fait aussi dans une profession. C'est pas parce que c'est un monde qui est marqué au coin de l'économie que ce n'est pas un monde qui est appelé à être fréquent. Je pense que l'entreprise, le monde professionnel, quelle que soit votre activité, c'est un monde où on peut faire le bien. Qu'est-ce qui rend heureux, sinon la grandeur d'âme ? Grandeur d'âme, la magnanimité, vous connaissez peut-être cette expression, la magnanimité, ce mot-là, qui s'oppose à la pusillanimité. Pusillanime, c'est celui qui, au contraire, qui reste dans son petit coin, surtout qu'on m'oublie, etc. Voilà. La magnanimité, la grandeur d'âme, c'est ça qui rend heureux. Aller au-delà de soi-même, un plus grand que soi. Et non pas, comme dit le Saint-Père, être uniquement centré hein, sur une conscience isolée, hein, des plaisirs superficiels, une recherche malade, une tristesse individualiste. Noël, c'est vraiment ça, là, c'est joyeux parce que justement, on est appelé à aller au-delà de nous-mêmes. On est appelé à un ailleurs. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, et il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Il peut y avoir une forme de fermeture du couple sur soi-même. Un peu par un effet de projection. Alors, je ne sais pas où est-ce, mais je crois que c'est vraiment une tentation. Comme couple, vous êtes invité à témoigner, à dire quelque chose, à une ouverture. Et posez-vous la question, quels sont les lieux de témoignage de notre couple? Je ne parle pas personnellement, mais de notre couple, comme couple. Où est-ce qu'on peut rendre témoignage? Est-ce qu'on a reçu des appels? Alors oui, je sais que vous êtes débordés, etc. Mais Dieu appelle des gens débordés. Posez-vous la question comme le fait d'être à deux, comment vous pouvez redonner à d'autres une espérance ? C'est aussi ça le sacrement de mariage. c'est assez beau de voir que la messe de mariage, souvent, c'est vu comme une messe d'envoi. On envoie le couple ensuite en mission. Hein, vous savez, c'est un peu une question de pro, mais bon, mais en 2006, il y a eu une modification de la liturgie du sacrement de mariage, et on peut rajouter cette phrase « Acceptez-vous votre place dans l'Église et dans le monde ?» En général, on répond oui, c'est mieux. Sinon, ça, on arrête tout, il n'y a plus de petits fours, etc. Bon, donc, acceptez-vous votre place dans l'Église et dans le monde ? Ça intéresse Schwabo d'avoir fait cette modification-là. C'est-à-dire que le couple est appelé à se décentrer de soi-même. Hein, c'est ce que dit Saint-Père. Voilà, c'est... Justement, se décentrer de soi-même pour que l'enthousiasme palpite à nouveau. Au début, au tout début, au jour de votre noce, voilà, il y a eu un vrai enthousiasme, une vraie joie. Mais on voit bien qu'il y a une forme parfois d'usure, une forme de... On se laisse aller, Justement, je me dis, tiens, est-ce que Jésus ne nous demande pas aujourd'hui, dans cette préparation à Noël, de nous laisser à nouveau enthousiasmer ? De rentrer dans une magnanimité, une grandeur d'âme, d'être au large. Et forcément, d'être au large, ça veut dire à un moment donné... On peut être déçu par quelqu'un, oui, oui, bien sûr, évidemment. On peut être blessé. Mais est-ce que le risque zéro nous rend heureux ? Beaucoup y succombent et se transforment en croyants courts. Attends, est-ce que c'est... Et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Donc beaucoup succombent au fait de ne plus avoir d'enthousiasme, de ne plus avoir de joie, Voilà, d'être dans une forme de tristesse, de se refermer sur nous-mêmes, sur soi-même. Et au fond, voilà, on n'est plus dans la vie de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est vraiment un lieu de don. Un lieu où on ne voit pas la fragilité comme une menace. On ne voit pas la fragilité comme une menace. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est la vie de l'Évangile. Ne pas voir la fragilité comme une menace. Alors qu'au contraire, le monde voit la fragilité comme une menace. Il faut être tout puissant, se protéger de toutes parts. Je suis toujours très touché de cet épisode de l'Évangile où Jésus apparaît avec ses plaies après la résurrection. À Thomas, vous rappelez, hein. Mets ton doigt dans les traces de mes clous, mets ta main dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Jésus ressuscite avec ses plaies, avec ses fragilités. Mais il a fait de ses plaies, parce qu'il est Dieu, des plaies lumineuses. Quand on est disciple de Jésus, on fait de ses blessures des blessures lumineuses. Tous, nous avons été blessés d'une manière ou d'une autre. Et encore, vous n'êtes pas parmi les plus éprouvés de la terre. Je pense qu'il y a beaucoup plus éprouvés que vous, etc. Vous avez été préservés d'une certaine manière. Mais bon, la nature humaine étant ce qu'elle est, nous aussi, nous avons été blessés. Mais le challenge, c'est de faire de nos blessures des plaies lumineuses. Et il n'y a pas de motif, dit le Saint-Père, pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui. Parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue, les bras ouverts. Personne n'est exclu de cette joie. Parfois, on peut penser que ce n'est pas pour nous, c'est pour d'autres. Les autres ont la vie plus simple, c'est plus simple pour les autres. On peut se sentir exclu, on peut se sentir, voilà, c'est, on n'a pas tapé à la bonne porte, on demande, frappez, on vous ouvrira, et puis vous frappez et personne n'ouvre. Parfois, dans notre vie spirituelle, c'est comme ça aussi. On a cette expérience aussi que, ben voilà, des prières sont faites, mais il n'y a pas d'aboutissement. Eh bien, le Saint-Père nous dit, voilà, le Seigneur ne déçoit personne. Quelqu'un qui fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Alors vous qui, j'imagine, êtes nés dans des familles catholiques, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu ça de notre naissance qu'on n'a pas un pas à faire vers le Seigneur, parce qu'on a une forme d'accoutumance, vous voyez. Il y a quelque chose qui peut aussi nous interroger, nous dire, tiens, bon, bien sûr, vous êtes un peu biberonné à la foi catholique, etc. Bon, très bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a un contact avec le Seigneur. Vous voyez, la vie chrétienne, mais c'est tellement beau, tellement... C'est l'expérience d'une présence. Comme dit le grand saint Augustin, un Dieu plus intime à moi-même que moi-même. L'expérience d'une présence dans notre vie. C'est ça la vie avec le Seigneur. Donc, oser un pas vers le Seigneur. Parfois, on se décourage même de notre vie de foi, même de notre prière, même... Alors, on fait comme si. On fait comme on peut aussi. Mais voilà, de se dire, tiens, de reprendre ce contact personnel avec Jésus, de dire, voilà, celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Celui qui rentre dans un lâcher-prise, le Seigneur ne le déçoit pas. Celui qui rentre dans une confiance, le Seigneur ne le déçoit pas. Et le challenge pour vous, c'est d'y rentrer à deux. Et puis deux plus, un, deux, trois, je ne sais pas, quatre, je ne sais pas comment vos familles, où est-ce que vous en êtes, au nombre de bébés, etc. Bon. Bon, voilà, vous semblez aimer la vie, en tout cas. Donc voilà, mais ensuite, bon. Mais parce que vous y rentrez à deux, le reste va suivre. Toute la tribu va suivre. Parce que vous y rentrez à deux. Et vous dites haut et fort que vous y rentrez à deux dans cette confiance. Haut et fort. Vous faites. Parce que vous y rentrez à deux, vous faites rentrer les autres. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C'est le moment pour dire à Jésus, « Seigneur, je me suis laissé tromper de mille manières, j'ai fui ton amour. Cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi. » Voilà, je pense que c'est important aussi de prendre conscience de nos fragilités, de ce qu'on a voulu compenser de mille manières, parfois de manière désordonnée. Voilà, on voulait compenser les choses, et parfois ce vide intérieur par des choses humaines. Voilà, et de dire, tiens, de reprendre conscience, c'est ça aussi, ça, Noël. Noël, c'est une nouvelle naissance. Ben voilà, je reprends conscience que j'ai besoin d'être sauvé. Seigneur, je me suis laissé tromper de mille manières. J'ai fui ton amour. Chacun de nous, on peut le dire, ça. Adam, où es-tu? Vous vous rappelez? Genèse, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il y a quelque chose en nous d'une peur de Dieu. En vous, en moi, il y a quelque chose d'une peur de Dieu. Et si on se donne complètement à lui, qu'est-ce qui va arriver? Voilà, je pense que c'est bien que ce temps de préparation à Noël soit un temps où la confiance soit affirmée dans votre couple, soit affirmée dans votre famille.